Je continue sur la suite de prédications concernant vivre à la manière de Christ, c'est-à-dire marcher dans la victoire. Et là, on va être sur notre dernier pilier, le septième pilier. Donc avant celui-ci, il y en a eu six. Et là, je vais lancer un défi à quelqu'un. Si tu arrives à me répéter les six premiers sans regarder dans tes notes, je suis audacieux. Voilà. Là, j'en fais appel à votre mémoire. Les six premiers, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies été là déjà à chacune des prédications ou que tu aies écouté sur le site. Si tu... Alors, regardez pas vos notes. Celui qui me l'a dit maintenant, je lui offre un resto. Ça veut dire combien je crois pas beaucoup en vous. Oh, mince. Alors, quelqu'un en est-il capable? Je te laisse 30 secondes. Ah non, non, mais je veux les... Ah non, ah non, non. Alors, j'éclaircis. Non, je veux une personne qui me cite les six. Pas un par-ci, un par-là, sinon j'ai trop de restos à payer, mon portefeuille ne le supportera pas. Alors, qui est courageux? Ah, vous doutez de vous-même, hein, quand même? Messieurs, dames, pas toute la journée. J'aimerais continuer, donc. Mais écoutez, 10, 9, 8. Bon, je ne vais pas aller au bout, je pense qu'il n'y a personne. Donc, on va les répéter ensemble. OK? Pas de resto, dommage, ce sera la prochaine. Je pense que moi-même, je serai tombé dans le panneau, donc ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous jeter la première pierre. C'est difficile de se rappeler de tout ce qui est dit, mais l'important, c'est quand même de retenir quelque chose à chaque fois qu'il y a une prédication. Parce que c'est comme ça qu'on grandit et c'est comme ça que ça nous fait du bien. Donc, je vous fais un petit récapitulatif et ensuite, on attaque le dernier pilier. Donc, le premier, c'était la clarté de la vision. Tu as besoin d'avoir une vision claire pour ta vie. Et que finalement, si la vision n'est pas claire dans ta vie, dans tous les aspects de ta vie, tu vas tourner en rond et il ne se passera rien de concret pour toi. Alors, sans vision, mon peuple périt. La parole de Dieu est claire. Nous avons besoin d'une vision en tant qu'Église, mais aussi en tant qu'individu, en tant que personne. Ça marche ? Un vainqueur, comme Christ a été vainqueur, un vainqueur n'avance pas au hasard. Vous vous souvenez, j'avais pris ces versets qui disent « on ne peut pas taper dans le vent à tout va comme ça ». Ça ne fonctionne pas. On doit avoir une vision claire. Le deuxième pilier, c'était la maîtrise de soi. J'ai une vision, mais il faut que je puisse me maîtriser. Et tout simplement, en Proverbe 25, verset 28, il écrit quoi ? « Celui qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville démantelée sans muraille. » Tu dois être maître de toi-même, de tous les aspects de ta vie, de ton corps, de ton être, de tes émotions, pour pouvoir persévérer dans le premier pilier qui est ta vision. Ensuite, dans cette, souvenez-vous, dans ce point-là, c'était la question de ce monde nous dit certaines choses et nous parle de suivre nos envies, suivre nos pulsions, suivre nos désirs, alors que la parole de Dieu ne nous invite pas à ces choses-là, elle nous invite à suivre la volonté de Dieu, chercher d'abord le royaume de Dieu et tout sera donné après. OK ? Donc, c'est vraiment cette question de se maîtriser, de savoir où on va et de s'y tenir. Le pilier 3, c'était la persévérance dans l'épreuve. Vous vous souvenez, parfois dans l'épreuve, on est comme Christ, on peut ressentir cette solitude glaciale qui fait qu'on est vraiment seul, que personne ne nous comprend, et pourtant on doit continuer d'avancer. Et cette persévérance est possible en Christ. Ça vous va ? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, verset 13. Pilier 4, la vie de prière. La vie de prière. La vie de prière. La prière, ce n'est pas une option. La vie de prière, c'est l'oxygène de ta foi. Sans la prière, ta foi faiblit. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne, une vie où ta foi est censée maturer, grandir, sans la prière. Si tu exclus la vie de prière de ton quotidien, tu vas t'éteindre. Ta foi, qui est si petite au départ, ne va pas croître. Donc, la prière est essentielle. La prière, c'est la communion avec Dieu, c'est le dialogue, c'est rechercher sa présence, c'est ces moments d'intimité que tu as besoin. Donc si tu vois ton mari ou ta femme qui ne prie pas assez cette semaine, tu mets un petit coup, tu dis écoute, je te laisse tranquille ce soir, j'ai vraiment besoin de toi. Hein, les femmes, hein, quand vous avez besoin de votre homme, va prier un petit peu, il sera content. Hein. Et du coup le jour d'après, il sera vraiment présent avec vous. Je viens de vous donner un secret de couple. Là tu vas réussir dans ton mariage. Les hommes, quand votre femme, elle se plaint un peu trop, elle râle un peu trop, va prier, ça va te calmer. Parce que dans la prière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se calibre à la pensée de Dieu. Et c'est essentiel. OK? Est-ce que tu as déjà fait une semaine sans prier, une semaine en priant tous les jours? C'est pas la même semaine. C'est pas la même semaine. Ensuite, on avait le pilier 5, la pureté et la sainteté intérieure. La pureté et la sainteté intérieure. Un chrétien sans sainteté est un soldat désarmé. Ça veut dire que si la sainteté n'est pas quelque chose qui est, ça veut dire rester droit devant Dieu, rester vraiment dans ces choses que Dieu aime voir de toi, dans ton caractère, dans tes choix, dans tes décisions, dans tes pensées, eh bien tu donnes quelque part une prise à l'ennemi. Donc si tu exclus la sainteté de ta vie, tu dis « moi je suis chrétien, je crois en Dieu, je continue ma petite vie comme ça », eh bien tu performeras pas dans le royaume de Dieu. Parce que tout simplement, le malin a une prise dans ta vie et il va te rappeler toujours à tes faiblesses. Ça va? Tu me suis toujours? Alors, la pureté et la sainteté, quand tu demeures dans ça, eh ben, tu as une autorité que même l'enfer ne peut pas contester. Parce qu'il s'approche de toi, « Ah, c'est trop pur ici, j'ai pas ma place, il n'y a rien de moi en lui. Et s'il n'y a rien de moi en lui, je ne peux pas l'attirer. » Tu me suis? Qui est 100% saint? Ben, moi, je suis saint parfaitement par le sang de l'agneau, mais dans ma réalité, j'ai des défis. Donc la parole de Dieu nous dit qu'on doit être saint, mais c'est par le sang qui nous couvre. Si je ôte le sacrifice de Jésus dans ma vie, je retombe dans mes faiblesses. Ça t'est déjà arrivé? Ça nous est tous arrivé. C'est marrant, personne ne lève la main. Oh, voilà, on est tous ensemble. Je vais vous faire travailler. Alors, ensuite, le pilier... pilier 5, on va prendre le verset, Matthieu 5, verset 8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui ont leur cœur pur, car ils verront Dieu. » La pureté, ce n'est pas une option. Tu veux voir Dieu, tu dois garder ton cœur pur. Ça va? Impeccable. Pilier 6, la vie de service et d'humilité. Compliqué, hein, dans ce monde. Dans un monde où on cultive la beauté, le paraître, les titres, la reconnaissance, les diplômes, notre niveau social. Et pourtant, Christ, lui, nous a montré quoi? Eh bien, il nous a montré que ça commençait en lavant les pieds, en essuyant les pieds, en utilisant des serviettes, que là, eh bien, il y avait réellement un impact. Le vainqueur ne veut pas être vu, mais il veut user des serviettes. Vous vous souvenez de cette expression que je vous avais donnée? Donc, verset chapitre 14 de Luc, verset 11, « Celui qui s'abaisse sera élevé. » Ce sont des piliers, des principes du royaume de Dieu qu'on veut tout simplement travailler dans notre vie, parce que si on travaille ces choses-là, on est de plus en plus semblable à Christ. Comme je vous avais dit, OK, la croix est un feu d'artifice, c'est magnifique. La croix, c'est le moment où Dieu, par son Fils Jésus-Christ, réconcilie l'homme avec Dieu, le voile est déchiré, et maintenant on a accès à la présence de Dieu, on a un accès libre à Dieu par le nom de Jésus. C'est simple. Ça, c'est le feu d'artifice. Mais nous voulons avoir un exemple, et cet exemple, c'est Christ lui-même. Comment a-t-il vécu jusqu'à la croix? Et c'est ça qui était le sujet même de nos recherches et de ces six piliers. Donc maintenant, je redonne une dernière chance à quelqu'un, c'est le premier qui lève la main. Quels sont les six piliers avant le dernier pilier? Esaïe, c'est bon? Alors viens devant tout le monde, montre-leur comment on fait travailler sa tête. Qui vote pour un resto, là? Vous avez confiance en lui? Vas-y. Allez!
Et le 1, c'est la clarté dans tout ce qu'on fait.
De la vision. Clarté, c'est bon.
2, maîtrise de soi. 3, j'arrive. La prière.
Non, 4.
Ça, c'est 4.
Ouais.
Mais je peux citer.
Oui, mais tu peux citer.
Ça vient. Ok. Maîtrise de soi. Prière, clarté, il y a la sanctification, il y a l'humilité. Je suis à combien? persévérance face aux épreuves.
Alexis, après c'est toi. Bon allez, je l'accorde, parce que j'allais dire bonus. Donc tu auras droit à un resto. Il y a droit à un resto. Un resto. Voilà. On verra lequel. Je vais parler à ma femme. Ok, tout ça pour vous imaginer que c'est important d'apprendre les choses, de retenir les choses. Parce que quand tu es dans l'épreuve, quand tu n'arrives plus à penser, quand les temps sont difficiles, il faut que les choses soient marquées dans ton âme et que ce soit automatique. Là, c'est dur, il faut que je résiste, il faut que je persévère. Tu n'as pas le temps de réfléchir parce que l'ennemi est sur tes talons, il ne veut pas te lâcher, il veut t'écraser. Ça marche ? Vous avez besoin de connaître ça. Alors maintenant, le septième pilier, le plus important que j'ai gardé pour la fin, le plus important, ça va être quelque chose que vous connaissez très bien et qui pourtant est parfois difficile à mettre en pratique. Et c'est ce pilier-là qui rend vivant tous les précédents. Si ça, ce n'est pas mis en œuvre, tu vas tomber dans une routine, tu vas appliquer ces six piliers avec ferveur et tu vas devenir un religieux, certes qu'une bonne vie, avec une ferveur devant Dieu, mais non vivifié par Dieu lui-même. Tu vas devenir tout simplement habitué à des choses, à un fonctionnement. Et c'est tout ce que Dieu ne veut pas finalement pour nous. Il veut qu'on marche, il veut qu'on avance, et vous allez voir pourquoi. Alors on va prendre Éphésiens 5, verset 18, qui sera notre verset de base. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à des poches, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Sans l'Esprit de Dieu en vous, vous vivez une religion sèche et fade. Sèche et fade. Et moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours dit, ça ne m'intéresse pas d'être religieux. Ce qui m'intéresse, c'est cette vie avec Dieu, ces choses qui vont faire que je sens que ma vie a un objectif bien au-delà de mes objectifs humains. Vous comprenez? Et c'est cet esprit-là, l'esprit de Dieu qui vous est donné. Je vous l'ai dit, à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile s'est déchiré. Et j'ai accès à la présence de Dieu. Et on va faire le point un petit peu sur ce que ça veut dire. Comment ça se manifeste dans notre vie? Comment on peut le mettre en pratique? Et aussi les risques que ça peut engendrer. Parce que, attention, Jésus a aussi donné nous a invité à faire attention à certaines choses. Ça vous va? Alors, ce matin, on a chanté en plus dans le chant, je ne sais plus exactement la phrase, mais si je devais mettre un sous-titre, eh bien, ce serait « Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ». Parce que sans l'Esprit, finalement, tous mes efforts, tout ce que je peux essayer de faire, mettre en place, risque d'être vain. Vous me suivez? Éphésiens 1, verset 13. Donc c'est Paul qui parle. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc on relit, en lui, vous aussi, donc en Jésus-Christ, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve, la bonne nouvelle qui vous sauve, tu entends cette bonne nouvelle, ça te fait réfléchir et si tu as des oreilles pour entendre, comme dira Jésus, la foi naît en toi, la foi t'est donnée, cette petite graine, elle t'est donnée, cette capacité de croire. Et de là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Saint-Esprit qui t'était promis vient te sceller. C'est fort. Ça marche. Donc, le sceau, c'est la marque du roi, le roi des rois, qui dit, toi, maintenant, t'es mon enfant. Et ça, c'est marqué dans ton cœur. Et lorsque ça arrive, tu as une conviction. C'est pour ça qu'on dit qu'on a une conviction de foi. J'ai entendu, j'ai cru, et maintenant je sais à qui j'appartiens, je sais où je vais, je sais quelle est ma destinée, au-delà de mes études, au-delà de mes projets, je sais pourquoi je suis sur cette terre, l'espérance rentre en moi, la joie, l'amour, toutes ces choses-là. Et on est parfois dépassé. Qui a été dépassé lorsqu'il a accepté Christ? Moi, j'étais dépassé. J'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne me reconnais plus. Tu vois? Eh bien, c'est ce qui se passe. C'est ce sceau de l'esprit qui te marque. Tu es enfant de Dieu. Et chacun le vit à sa manière. Il n'y a pas de règle établie, préétablie. Le tout, c'est ma foi, je crois, cette conviction de foi descend dans mon cœur et je suis scellé par le roi. Et bien ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Grâce à quoi ? À l'œuvre de Christ à la croix. Sans Christ à la croix, l'Esprit ne pourrait pas faire ça. Puisque l'Esprit était là bien avant. Et il ne le faisait pas dans le cœur, de cette manière-là. Et pourtant maintenant, alors que Christ est mort, son sang a coulé, lorsque je crois en Jésus, son message, il se passe quelque chose. Ça va ? Bon, pour le moment, on n'est que sur un rappel. Mais il faut se rappeler, vous vous souvenez, mon père aime dire, c'est le plus grand des miracles. Et c'est vrai que vivant, ayant l'habitude de côtoyer l'Église, d'aller au culte, ça devient parfois une habitude. Et pourtant, c'est le plus grand des miracles. Sans ce passage-là, c'est impossible d'aller plus loin dans la vie chrétienne. Tu es obligé de passer par là. C'est la porte d'accès. Une fois, Sandy, elle avait prêché, elle avait dit, c'est comme quand tu passes un portique de sécurité. C'était une image qui m'avait marqué, ça, Sandy. Très belle image. Quand tu dois prendre l'avion, tu arrives, tu passes, c'est étroit, mais ça va biper, hein. S'il reste des choses pas correctes en toi, si tu te promènes avec des compromis, ça va sonner dans tous les sens. Mbouchi. Alors on félicite Mbouchi, parce que Mbouchi, ça fait 10 ans, hier, qu'elle a pris son baptême. Magnifique. Donc il y a 10 ans, un dimanche, elle m'a envoyé la photo. Je me suis dit, punaise, j'étais 10 ans plus jeune. Du coup, ça vieillit tout le monde ici, tous les anciens. Et c'est magnifique. Vous voyez ça, il y a un fruit qui est là. Désolé, petite parenthèse, Mbouchi, mais je t'avais dans mon champ de vision. Alors voilà que on est là et c'est l'Esprit qui va régénérer notre cœur et qui va nous rendre capables, qui nous sort des ténèbres à la lumière et qui va nous rendre capables d'exercer les fruits de l'Esprit. Alors, au moment où tu es né de nouveau, au moment où tu acceptes Christ, tu es capable, grâce à cet Esprit, d'exercer les fruits de l'Esprit. Je lance un deuxième resto pour celui qui me cite les fruits de l'esprit ou... Non, on ne va pas faire ça. Après, vous allez vous habituer. Je vais devoir faire ça à chaque prédication. On ne va pas faire ça. Je vais me tirer une balle dans le pied. Alors, c'est lui qui nous rend capables. Pourquoi ? Parce que ce sceau-là, ça devient une source en toi. Je veux vivre à la manière de Christ par la foi. Je lis que je dois être animé d'amour et dans certaines situations, je suis incapable d'aimer. Et là, je crie, Jésus, maintenant que tu es en moi, donne-moi cet amour qui me manque pour agir dans telle situation. Et tu vois, tu es en train de prier, tout simplement. Quand tu parles comme ça, tu parles à Dieu, c'est concret. Tu vois, mon collègue, je le supporte plus. Mais toi, tu me dis d'aimer jusqu'à mes ennemis. Mais mon amour est limité, mon amour charnel est limité. Jésus, remplis mon cœur de ton amour. Vous savez que moi, je vous ai déjà donné ce témoignage-là. Hein. À un moment donné, j'ai manqué d'amour pour ma femme. Il y a des hommes, ça vous est déjà arrivé ou vous êtes tous des grands lovers ? Quand tout va bien, vous êtes des lovers, hein ? Mais quand ça chauffe, quand on n'a pas le temps de se voir, quand la vie nous entraîne, qu'on n'a pas le temps de mettre les choses au clair l'un avec l'autre, que l'un a une pensée, l'autre a une pensée, c'est là que ça pète. Et ça chauffe. Et moi, je partais au travail. Et j'ai dit, Seigneur, tu vois, je ne peux pas, il faut que tu renouvelles mon amour pour ma femme. Là, je suis arrivé au maximum de ce que je peux faire. Et j'étais dans ma voiture, une prière simple. Et là, j'ai senti l'amour de Dieu me remplir. Je suis rentré, je n'étais plus le même. Et ça s'est passé comme ça. Parce que j'ai parlé au Jésus qui habite en moi, qui a déposé quelque chose de plus dans mon cœur. Et beaucoup de chrétiens se privent de ça. Et ils deviennent, comme je vous l'ai dit, religieux. Je peux pas, je peux, je devrais, ça c'est pas correct, et on vit avec des règles. Alors qu'il suffit de dire, Seigneur, tes règles, je suis incapable de les suivre, je sais que ça c'est correct, je veux les suivre, je veux les pratiquer, change mon cœur. Ça marche ? Et donc ces fruits-là, toute ta vie, tu vas les travailler. Toute ta vie de chrétien. Et en plus, dans l'Église, c'est encore plus fort. Quand il y en a un qui t'agace là, quand il y en a un qui ne fait pas comme toi, le fer affûte le fer. On se frotte les uns aux autres. Et du coup, c'est bien d'être ensemble parce qu'on est ensemble pas que pour Alléluia, merci Jésus. On est ensemble aussi pour se fortifier les uns les autres par nos expériences, par les témoignages et aussi parce que parfois on doit se pardonner les uns les autres. Une église imparfaite, ensemble, qui pointe vers la perfection. Donc l'Esprit... Souviens-toi bien de ça, ce sceau-là, C'est la source dont tu as besoin. Et tu ne peux pas fermer le puits. Si tu fermes le puits, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça devient compliqué. Et tu fonctionnes en tant que chrétien, mais ce n'est plus une vie chrétienne vivifiée. Alors, on va voir Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23, je ne sais pas si je te l'avais donné, Pierre. Alors, c'est Jésus qui parle. J'aime bien voir les expressions de Jésus. Jésus, il va dire quoi? Il va dire, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. C'est un truc de dingue quand même. Lorsque tu acceptes Christ, que tu dis Jésus, vraiment ton message, waouh, et que cet amour naît pour Christ, que tu es capable de dire Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Quand tu es capable de dire Jésus, je t'aime, pas juste j'aime l'église, j'aime la louange, j'aime Sandy et sa coupe de cheveux magnifique. Hein, Sandy? Parce que c'est fun, parce que c'est Jones, j'aime comment. Non, c'est pas tout ça qu'on aime. Oui, on aime. Ce que j'aime, c'est Jésus. Quand je dis j'aime Jésus, qui est-ce qui débarque? Le Père et le Fils. Bam! Eux, ils font par amour. Il m'a aimé, je reconnais. Ma réponse, c'est mon amour envers lui. Ils font la demeure chez moi. Elle est là, la source. Elle n'est pas incroyable. Ce n'est pas juste une prédication vue sur YouTube. Ce n'est pas un encouragement. C'est le Père et le Fils rassemblés au plus profond de mon cœur. Exceptionnel. Tu me suis? Alors, c'est notre réponse. Le deuxième point avec l'Esprit, ça va être le baptême du Saint-Esprit, qui est souvent mélangé. Même ici, parfois, j'entends des trucs, je dis « Ah !» Moi, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est que le sceau de l'Esprit vient dans mon cœur, je suis enfant de Dieu. OK? Et on va voir cette petite histoire avec Paul. Actes, chapitre 19, verset 2. Ça, ce n'est pas moi qui vais vous convaincre. Je vais vous donner quelques points clés. Et c'est Paul qui va arriver et il va dire à certaines personnes, lisez avec moi, et il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Donc il parle à des personnes qui finalement ont été exposées au message de l'Évangile, qui ont cru à ce message-là, qui se sont repentis pour leur ancienne vie, mais il dit, ok, c'est très bien, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et ils répondirent, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Ils ont reçu le Père, ils ont reçu le Fils, ils ont été scellés. L'Esprit de Christ s'est installé dans leur vie. C'est ça le sceau. L'Esprit de Christ, c'est également le Saint-Esprit. Mais la vie de Christ s'installe en moi. Il vient vers moi parce que j'accepte. Et là, il dit, mais maintenant, est-ce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? Alors, on n'a même pas entendu. On ne sait pas ce que c'est. Ils ont été scellés, mais ils n'ont pas encore reçu le baptême. Alors, acte 19, verset 6 maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Paul, il va dire, ok, maintenant vous venez là, je vais prier pour vous, je vais vous imposer les mains. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Parler en langue, prophétiser, ce ne sont pas des fruits, ce sont des dons. D'accord? Un don leur est donné. Alors, on va voir quelle est la différence. Le sceau, note bien ça, le sceau, c'est l'identité, l'appartenance. J'appartiens à Dieu. Le sceau du roi, je suis enfant de Dieu. Je ne vais pas vous donner. Le pouvoir m'a été donné de devenir enfant de Dieu. L'appartenance, l'identité. Le baptême, c'est la puissance et l'autorité donnée par le Saint-Esprit aux enfants de Dieu pour accomplir quelque chose. Tu n'as pas besoin de la puissance et de l'autorité pour être sauvé. Tu n'as pas besoin du baptême du Saint-Esprit pour être sauvé. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit qui te sauve. C'est la foi en Jésus-Christ, par la grâce. Ça me sauve. C'est le bouquet. Mais maintenant, une porte est ouverte. Yannick, t'as une mission. Et tu as besoin d'être équipé. Si tu n'es pas équipé, ça n'ira pas. Mais tu as aussi besoin de ce feu en toi qui consume un petit peu toutes les faiblesses, là, et qui te donne le pouvoir d'avoir autorité sur toi-même. Parce qu'on est parfois faible, hein, on se lamente facilement, on râle, on boude. Et on passe à côté de la volonté de Dieu pour notre vie. Et les jours passent, on est sauvé, on aime Jésus, mais on n'accomplit pas encore réellement ce que Dieu a prévu pour notre vie. Tu me suis ? Le premier fait le saut, fait de moi un enfant de Dieu, et le second fait de moi un témoin puissant. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour témoigner. On m'a fait un don, je le donne en retour. Sans la puissance de l'Esprit, je suis incapable d'agir sur certaines situations. Pourquoi ? Pas parce que tu n'aimes pas Dieu, mais parce qu'il y a des choses qui te dépassent. Moi, une fois, j'étais dans le bureau, quelqu'un commence à me raconter sa vie, et j'ai l'impression qu'on ne m'a pas tout dit, j'ai dit, écoute, dis-moi tout. Et là, boum, boum, boum. Et au plus on me disait les choses, et le péché, et le péché, et le péché, et le péché, mais j'aime Jésus. Et je m'enfonçais dans le siège, et j'ai dit, mais comment on peut faire autant de péchés ? Vous comprenez, ça, c'est ma tête. Et après, tout de suite, Seigneur, toi, t'es venu pour sauver, ça. T'es venu pour libérer. Fais ton œuvre. Puis j'ai dit, écoute, j'ai pas de mots. On va prier. Saint-Esprit vient. Et Saint-Esprit a fait son travail. C'est pas moi qui lave. C'est pas moi qui dit que c'est OK. Mais c'est Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le changement. C'est la transformation dans les cœurs qui nous montre que, ah, c'est une personne nouvelle. Qui ne vole pas des sacs dans une église. Ah ! Parce que tu sais, il y a plusieurs manières de voler Dieu. Tu voles Dieu quand tu ne lui consacres pas du temps. Tu voles Dieu quand tu piques dans la dîme. J'ai déjà vu. Tu voles Dieu de plein de manières. Et attention, il regarde. Mais pourtant, tu m'as accepté. Ah, on est faible, hein ? Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. C'est quand même clair. C'est cette puissance dont on a besoin pour témoigner. Il y en a qui me disent, ben moi je suis un bon chrétien, gentil, les gens vont voir mon témoignage. C'est sympa, ok, t'es bien, tu mens pas, tu voles pas, t'es quelqu'un de fidèle. Mais les gens, ils en ont rien à faire. Hein. Et j'ai rarement vu juste une attitude, vous voyez, sobre de chrétien sauver quelqu'un. Par contre, avoir une pensée, avoir quelqu'un à cœur, manifester une compassion que tu, pour quelqu'un et tu ne t'y attendais pas. Et la personne dit, mais pourquoi tu me fais ça ? Ben parce qu'il y a quelque chose qui m'a dit que tu en avais besoin. Tu es animé de quelque chose de plus, pas juste de la vie chrétienne. C'est pour ça que je vous ai dit, les six piliers qui ne sont pas vivifiés, ça ne vaut pas grand-chose. C'est une belle vie, mais ce n'est pas cette destinée de témoin puissant que Dieu te propose. Alors, on va voir que maintenant, souvent, il y a des choses qui sont déséquilibrées dans l'Église, dans notre doctrine, dans notre façon de penser. Et vous allez voir que c'est impossible, si tu veux vraiment fonctionner comme Christ, marcher dans la victoire, fonctionner dans les choses surnaturelles et en même temps humaines, il y a un équilibre indispensable. Cet équilibre est simple. Il y a deux dangers. C'est avoir les fruits sans les dons, je viens d'en parler, tu as les fruits, c'est très bien, tu as une bonne vie, tu suis Dieu, tu travailles ton comportement, c'est ce qu'on appelle le caractère. Tu commences à te revêtir du caractère de Christ, c'est bon. Mais le caractère de Christ sans l'action de Christ, ça ne vaut pas grand-chose. Okay ? C'est déjà pas mal, mais c'est 50% du chemin. Et le deuxième risque, c'est avoir les dons sans le caractère, sans les fruits. Ben, tu vas me dire comment c'est possible ? Ben, c'est possible. On va voir quelques exemples bibliques. Pourquoi ? Parce que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Quelqu'un qui a la foi, qu'il est capable de faire de grands miracles, qui monte sur l'estrade, qui proclame avec foi les miracles, il aura les miracles. Et pourtant, derrière, il y a 6 femmes, 52 enfants. Vous comprenez ce que je veux dire ? J'exagère, mais pour vous expliquer que Dieu, tu peux voir des choses incroyables, mais ce ne sont que les dons. L'exemple des Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 7. C'est Paul qui dira, il ne vous manque aucun don. Donc si lui dit ça, c'est que c'est vraiment une église. Le dimanche matin, c'est une louange. Tu décolles au ciel. Il y en a un qui se lève, il y a une parole. Là, tu réponds avec une prophétie. Et puis là, il y a quelqu'un qui est guéri. Et puis ceci, et puis cela. Vous imaginez le truc ? C'est incroyable. T'aimerais bien vivre ça? Ben moi, je l'ai vécu. C'est pour ça que j'aime pas quand on me dit oh, il faudrait, on doit vivre. Non, on vit. C'est juste qu'il faut tous le vivre en même temps. Il y en a ici qui vivent des grandes choses. Mais c'est puissant quand c'est tout le monde en même temps. Et dans cette église-là, c'est tout le monde en même temps. Ils sont chauds. Non, quand on a commencé il y a une quinzaine d'années l'intercession avec Antonia, on priait, Seigneur, fais de nous des intercesseurs. Et au plus on grandissait dans la foi, dans la prière, dans la recherche du Saint-Esprit, eh bien, il nous montrait des choses. Et moi, je me souviens, parfois, je n'avais pas envie de venir et nous, on était tous des gros dormeurs et on s'est dit, c'est compliqué de venir prier le soir. Alors, on s'est dit, bon, on va se mettre au défi, on va se challenger, on va venir le dimanche matin à 8h30. Les cultes commençaient à 10h et on s'est dit, 8h30, 9h30, on vient prier. Et donc, on était 5 et parfois, on était en retard et on courait. Et alors, quand il y en a un qui n'était pas à l'heure, il se faisait tailler. Mais pourquoi tu n'étais pas à l'heure? Hein? Mais gentiment, vous comprenez ce que je dis? Parce qu'il y avait une soif. Tu n'es pas là, on ne peut pas commencer. Moi, je me suis réveillé, toi, tu ne te réveilles pas. Comment on fait? Et on se battait. Hein. Et moi, les plus gros moments d'intercession, de vie de l'esprit que j'ai vécu, c'est quand j'avais même pas envie d'être là. Je me souviens d'une fois, j'arrive là, et puis je dis, Seigneur, vraiment, là, c'est un sacrifice. Hein. Et après, j'arrivais, et puis on prenait tout le temps un temps de grâce, et c'est là où d'action de grâce, tu déposes, tu dis, Seigneur, je suis là. Ok, je suis là maintenant, de toute façon, je suis là, je suis disponible. C'est là où tu lâches prise. Et là, je lâche prise, et puis... c'était pas moi qui faisais l'intercession, puisqu'il y avait différents leaders. Et là, Saint-Esprit met des pensées dans mon cœur. C'était Aurélie qui gérait l'intercession. Et je dis, je vais lui retourner son truc, c'est pas possible, parce que là, c'est trop fort. Et là, on commence à prier tous ensemble. Et puis, je prie à haute voix. Antonia, elle n'entend pas celui qui est 3 mètres plus loin. Elle interprète ce qu'elle n'entend pas. Et puis, ici, on dit, ouais, mais il prie trop fort. Le problème, c'est que moi, j'ai vécu ça. Et tu me dis, prie trop fort. Bah, reste chez toi. Il y a des temps calmes, il y a des temps forts, il y a des temps de proclamation. Tu comprends ce que je veux dire? Et puis après, je pose ma main, je reçois une image et on vit ça pendant plusieurs semaines. On était frustrés parce qu'on recevait tout ce qui allait se passer dans le culte à l'avance. Et on était frustrés parce que c'était jamais la même dimension. Les choses étaient dites, les choses étaient partagées, mais jamais dans la même dimension. On dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et elle a dit, maintenant, je ferme les écoutilles. Il n'y aura plus rien. Parce que ce n'est pas à 5 qu'il faut vivre ça, c'est avec toute l'Église. On était dégoûtés. Tu t'en souviens? Moi, j'étais dégoûté. Et maintenant, vous devez travailler. Tout le monde doit vivre ça, mais tout le monde n'est pas encore arrivé à ce moment-là. Et encore aujourd'hui, je dis, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Et tu viens à bon culte et ta semaine commence et tu lâches la sainteté, tu lâches l'obéissance. T'abandonnes ta vision et tu retombes et puis tu reviens le dimanche, t'es réencouragé. Et c'est comme ça souvent. C'est notre monde qui veut ça, mais nous on veut être enflammés. On a besoin de ce Saint-Esprit qui nous rappelle, je vous ai appelé pour quelque chose. Pour vivre ma présence, c'est un accès gratuit, libre. Ça dépend que de ton bon vouloir, du temps que tu vas y consacrer, de l'effort que tu vas mettre. Parce que tu vois, le sceau, il t'est donné, t'es sauvé. Mais tu dois te discipliner. C'est toi qui te lèves. C'est toi qui viens au culte. C'est toi qui ouvres ta Bible. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fait pour toi. Et ceux qui vivent que par les dons, ils sont tout le temps dans la révélation. C'est marrant, hein? Ils ne lisent pas la Bible. Alors, pas tout le monde. Mais tu ne peux pas faire l'un sans l'autre. La discipline, ma régularité avec Dieu. Mon amour pour Christ. Ma communion. Et Seigneur, j'ai besoin des dons. Parce que là, je ne vais pas attendre que Josine elle lâche une prophétie. Dans mon boulot, elle n'est pas avec moi. Si j'ai besoin d'une prophétie quand je bosse, je n'ai pas besoin de Josine, j'ai besoin d'une prophétie. Et tu vois, on s'habitue. À lui, il prophétise souvent. À lui, souvent, il y a le don de guérison. Et du coup, quelque part, on attend que les autres chrétiens fassent pour nous. Mais quand tu es dans ta vie, tu n'as pas besoin des autres chrétiens, tu as besoin des dons. Et quand tu dis, mais moi, c'est la prophétie, eh ben, tu te soustrais aux autres dons. Parce que tu dis, moi, c'est la prophétie. Mais si tu as besoin de guérir, tu n'as pas besoin de la prophétie. Or, tu prophétises, mais tu ne guéris pas. Vous voyez, toutes ces choses qu'on peut... Moi, j'ai dit, Seigneur, je veux être disponible quoi que tu veux, quoi que tu veuilles. Si tu veux une guérison... Et j'ai dit à Dieu. J'ai dit à Dieu, j'en avais marre, parce qu'il y avait tous ces trucs sur Internet où il y avait les guérisons dans la rue. J'ai dit, moi, si c'est comme ça l'Église, je me suis battu avec Dieu. J'ai dit, si c'est ça l'Église, moi, je vais dans la rue, hein, parce que c'est bon, j'en ai marre, hein. Moi, je parle comme ça à Dieu. Il y a des miracles dehors, il n'y en a pas dans l'église. J'ai combattu comme ça 2 semaines avec le Seigneur. Un dimanche, je n'avais pas envie d'être là. 3 guérisons, j'ai eu droit, juste en priant. Alors que j'étais frustré. Et Dieu m'a montré, c'est ici aussi des guérisons. Mais avec un cœur disposé. J'ai pris ma claque. Et vous pouvez parler comme ça avec le Saint-Esprit. C'est le même accès qu'on a tous. Et moi, quand je ne vis pas cette chose, je dis, Seigneur, est-ce que je ne suis pas trop dans ma routine chrétienne? Là, j'ai besoin d'un challenge, j'ai besoin que le feu démarre à nouveau. Que ce désir de voir ta gloire dans ma vie, autour de moi, revienne à nouveau. La puissance sans le caractère est un réel danger. Et l'inverse, certains chrétiens marchent tellement dans la droiture, sans rechercher la puissance, et au final, c'est une foi qui devient morale, on moralise tout le monde, et c'est stérile. Plutôt qu'une foi qui m'encourage à connaître le cœur du Père, à vivre ce qu'il veut que je vive. Alors, la mise en garde de Jésus, Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On peut donc fonctionner clairement dans la puissance sans l'intimité avec Dieu. Donc la puissance n'est pas une solution pour jauger les ministères, jauger les gens. La puissance est utile, elle est nécessaire, nous en avons besoin. Mais le plus important, c'est que le caractère soit associé à la puissance. Ça marche? Est-ce que c'est clair? Alors, mon 5e point, quelles sont les applications pour nous aujourd'hui? Lorsque Dieu, vous devez savoir que de tout temps, lorsque Dieu révèle quelque chose, derrière, s'il te révèle quelque chose, tu as donc une responsabilité. Donc, pour l'humanité, Dieu a révélé son Fils, il a révélé son plan de salut, la parole de Dieu est claire, nul n'est inexcusable. Point. Et nous, notre responsabilité, c'est d'annoncer le message de Dieu. Mais nul n'est inexcusable. Quand Dieu révèle, ça lui permet derrière de demander des comptes. T'as voulu? Il y en a, ils prient, je veux plus d'onction. Ok, je vais te donner plus d'onction. T'as voulu plus d'onction? Qu'est-ce que t'en as fait maintenant? Est-ce que t'as fait quelque chose d'utile pour mon royaume? Ou est-ce que tu t'es amusé pour monter ton bourrichon, pour être quelqu'un de grand dans le royaume de Dieu? Ou est-ce que réellement t'as fait des choses utiles, t'as servi l'œuvre de Dieu? Quand Dieu te révèle quelque chose, il te demande en retour. Tu deviens responsable de ce qu'il t'a révélé et il te demandera des comptes. C'est pour ça qu'il dit, hé les gars, vous n'avez rien fait de correct. Vous êtes amusés, c'est bien. C'était ma parole, ok. Ça a bénéficié à certaines personnes parce que Dieu veut faire du bien. Il ne sera jamais contre une petite guérison à gauche, à droite. Mais il voit les cœurs et il voit le caractère. Et à la fin, toi et moi, tout comme quand on a accepté Christ, on était seul devant lui. Quand on sera à la fin de notre vie, on ne sera pas avec notre femme, avec nos enfants, on sera seul devant lui à rendre nos comptes. Et il dira, je t'avais donné ce talent-là, pourquoi tu es allé l'enfouir? Toi, vraiment exceptionnel, tu as travaillé toute ta vie pour être de mieux en mieux dans ce domaine-là. Tu as excellé. Mais là, bon, allez, vas-y, rentre. Là-bas, tu vois la villa, vue sur mer, avec piscine à débordement, c'est pour toi. Moi, je veux celle-là, c'est la mienne. Je veux pas la petite cabane cachée. On va avoir des belles maisons là-bas. Alors, je répète, le sceau nous engage chaque jour. Le fait que tu aies été scellé, si tu as un jour dit « je suis enfant de Dieu », si tu te reconnais aujourd'hui comme enfant de Dieu, eh bien, il t'engage à marcher dans la sainteté et à cultiver les fruits. Tu es redevable envers Dieu de cultiver tes fruits, les fruits de l'esprit. Donc, tire à lire Galates 5 et la prochaine fois, j'offrirai un restaurant pour celui qui me donnera les fruits de l'esprit par cœur. Version second 21, s'il vous plaît, sinon on va se mélanger. Les vieux chrétiens, vous n'avez pas le droit. Ce sera que pour les nouveaux. Ça marche? Le baptême nous engage à œuvrer dans la puissance. À œuvrer dans la puissance. Et à amener le ciel sur la terre. C'est ton rôle, c'est mon rôle. Nous sommes porteurs de la présence de Dieu. Le voile s'est déchiré. Partout où nous sommes, nous devons amener la présence de Dieu sur la terre. Et ça, c'est grâce au baptême du Saint-Esprit. Moi, cette semaine, j'étais dans une atmosphère, ça a commencé à me fatiguer, sur un chantier avec plein de gueules. Là. Il y a eu un jour férié qui a sauté, je n'étais même pas au courant. C'est juste, oui? Oui? Et donc, ça râlait, puis il y en a un, il était sur le téléphone, il regardait. Et il râlait, machin, et Macron, et ceci, et cela, et de façon machin. Et puis à la fin, je dis, écoute, il faut que tu arrêtes. Tu déprimes tout le monde, personne qui t'écoute, tu ne veux pas dire un truc positif. Je l'ai harcelé toute la semaine pour qu'il dise un truc positif. Je peux vous assurer que le vendredi, il disait un truc positif. Mais moi, je suis rentré épuisé. Voyez, paroles négatives tout le temps, là. Ça ne veut pas dire que c'est juste ou pas juste qu'il dit, mais sois positif, amène la vie. Soyons des porteurs de vie. Mais voilà, donc à un moment donné, vous voyez, à un moment donné, l'esprit en moi, il refuse ça. Il dit, Seigneur, je ne peux pas accepter ça. Je veux rester dans la paix, je veux rester dans la joie. Je ne vais pas me faire voler tout ça par des discours négatifs. Saint-Esprit, fortifie mon cœur. Parce que moi, quand je commence à croire ce qu'il dit, être d'accord avec ce qu'il dit, qui est peut-être juste, j'ouvre quoi? J'ouvre une porte. Puis après, ça crée des chrétiens déprimés, stressés, anxieux, fatigués, qui viennent aux réunions de prière comme ça, avec des têtes de vainqueurs. Alors, quelqu'un m'a demandé ce matin, est-ce que tu es fatigué? J'ai dit, oui, je suis fatigué. Je suis même épuisé, éreinté physiquement, j'ai mal partout. Mais mon moral est plus que vainqueur. Je ne suis pas abattu du tout. Mon corps ne va pas me dire comment je dois être dans la joie. Il ne va pas me dire, mon corps, ah, t'es fatigué, il faut râler sur tout le monde. Je refuse ça. Saint-Esprit, guéris-moi, renforce-moi, fortifie-moi, j'ai besoin de toi. C'est ça que j'ai besoin d'entendre. T'es fatigué, ben, on est tous fatigués. De toute façon, c'est le mal du siècle. Par contre, Seigneur, renforce-moi, j'ai besoin de toi. Mon moral, il doit être puissant, inébranlable. Saint-Esprit, travaille mon cœur. Alors voilà, être rempli de l'Esprit, ce n'est pas juste de l'émotion. Pas juste les arcs-en-ciel, ça c'est bon, ça fait du bien ça. Mais c'est pas que ça, c'est un style de vie. Et il faut l'épouser. Il faut que cet esprit vienne vivifier vos 6 piliers. Alors notre prière c'est simplement, Saint-Esprit, remplis-moi. Ok, je suis ton enfant, mais remplis-moi à nouveau. Ça vous va? Alors je peux pas être plus clair. J'espère que ces 7 piliers vous ont parlé, que vous allez les mettre en pratique, que vous allez en apprendre quelques-uns, travailler dessus, mais avec l'Esprit. Pas juste par vos forces. Et dire, Saint-Esprit, je veux te rencontrer dans une nouvelle dimension pour ma vie. Commence pas à chercher les dons, les trucs. Tu dis juste, Saint-Esprit, je veux te connaître. Je veux vivre selon ta parole. Et tu vas voir, Saint-Esprit, il va ouvrir les portes pour toi. À un moment, dans une situation, tu vas te rappeler, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, nous prions ce matin parce que nous savons que nous avons besoin de toi. Nous savons que sans toi, nous sommes limités humainement, charnellement, dans nos pensées. Et on ne veut pas être des chrétiens, Seigneur, religieux. On veut être fervent, on veut avoir la crainte de toi. On veut avoir vraiment ce désir de te ressembler. On veut y mettre toute notre force. Tu dis qu'on doit t'aimer de toute notre force, de toute notre pensée, de tout notre être. Seigneur, même quand c'est dur de venir dans ta maison, on veut prendre autorité sur notre morale, sur notre mental, parce qu'on sait que tu as fait ta part à la croix. Et on doit faire notre part dans ce monde-là. On doit se discipliner. Mais on sait que la discipline a des limites, Seigneur. Seigneur, on t'aime tellement qu'on est prêt à tout, mais parfois on est limité charnellement. C'est alors qu'on réclame d'être baptisé à nouveau, d'être immergé à nouveau dans ta présence, de vivre ces temps où réellement on est ailleurs avec toi. Où on est au bénéfice du fait d'être enfant de Dieu, où on peut venir piocher dans toutes ces bénédictions dont tu nous as déjà bénis, toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Seigneur, tu nous as ouvert un chemin vers ces lieux célestes. Alors, on ne veut pas être négligent. On ne veut pas abandonner tout simplement les promesses que tu nous as données. Alors, Jésus, je te prie pour notre Église. Seigneur, je ne vais pas faire de baptême, de prière pour le baptême du Saint-Esprit. Je ne vais pas faire, Seigneur, d'appel, je veux en appeler à la conscience de chacun, c'est ta parole. Seigneur, c'est ton désir qu'on aille plus loin, c'est ton désir que nous puissions chacun entrer dans notre mission en tant qu'Église, mais en tant qu'individu, autour de nous, dans notre famille, dans notre travail. Alors je te prie, Saint-Esprit, toi qui travailles au plus profond des cœurs, dans les consciences, de venir réveiller ce feu qui est en nous, de venir souffler sur cette braise du sceau-là qui nous dit « il y a plus, il y a tellement plus ». Alors Jésus veut soupirer après ce plus, pas juste pour voir des choses, pas juste pour manifester des choses, mais tout simplement pour être semblable à toi, Christ. Toi, tu marchais dans la droiture, mais tu marchais dans la puissance. Alors nous voulons marcher dans la droiture et nous voulons manifester ta puissance quand c'est nécessaire, Seigneur. On ne veut pas créer, on ne veut pas provoquer, on veut être des témoins tout simplement. Et lorsqu'on témoigne, tu te manifestes, tu viens attester ta parole avec force et puissance. Alléluia. Saint-Esprit, nous ne voulons pas te négliger dans nos temps personnels. Saint-Esprit, nous voulons te dire que nous t'aimons. Saint-Esprit, nous voulons te dire que tu as ta place dans notre quotidien. Saint-Esprit, on veut te dire que tu nous aides dans l'éducation de nos enfants. Tu as ta place dans notre couple, dans notre travail, dans notre vie d'église, dans notre appel pour toi. Tu es là et on ne veut pas te mettre de côté. Alors pardonne-nous. Toutes ces fois, on a voulu faire par nos propres forces, on a voulu agir par nous-mêmes. Et Seigneur, on veut s'ouvrir tout simplement à ta volonté qui est claire, qui est nette, qui est sans appel. Dans ton nom puissant, Jésus, on a prié. Amen.